Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de Sport Hebdo, votre rendez-vous donc incontournable pour toutes les actualités sportives, aussi bien nationales qu'internationales. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition qui s'annonce riche en informations. Alors installez-vous bien confortablement, car nous avons beaucoup à partager avec vous aujourd'hui. Je suis Miss Darlix à la présentation. Et oui, vous êtes dans Soir Hebdo et c'est donc parti pour une heure d'informations qui vont faire parler d'elle. Au programme de cette édition, nous aurons entre autres à parler donc de la réélection du président Gbagbo Maoussé à la tête de la FETOBOX, la Fédération Togolaise de Boxe. Rappelez donc la souscription de l'État togolais à une assurance pour les athlètes togolais, l'atelier de validation du recueil des jeux traditionnels du Togo, quelques sujets sur le plan national bien sûr. Et à l'international, nous allons explorer un peu les disciplines comme le football et le basketball. Nous démarrons donc par la première discipline en tête de liste pour ce numéro de ce matin, la boxe. La Fédération togolaise de boxe en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs et le Comité national olympique du Togo a tenu une assemblée générale la dernière fois. Au sortir de cette assise, Kwakwo Adote Maoussé, le président sortant de cette instance, rempile à la tête donc pour un mandat de 4 ans. Cette assemblée générale introduite par le concerné, le dénommé Kwakwo Adote Maoussé, Kwete Nikwe, représentant du maire de la commune des Lacs 2, Pierre Léonard Rinvi, président de la Fédération béninoise de boxe, et Ngeni Tchagwele, représentant du ministre des Sports et des Loisirs, a permis donc de dresser le bilan des années écoulées et d'adopter de nouveaux règlements. Kwakwo Adote Maoussé a souhaité donc la bienvenue à l'assistance et à sa suite, Kwete Nikwe, donc Pierre Léonard Rinvi et Ngeni Tchagwele ont adressé chacun leurs mots à l'endroit de l'Assemblée. Les travaux ont été entamés avec les différents rapports moraux d'activité financière qui ont été lus et approuvés. Après cet exercice, le présidium composé de 3 membres a pris la relève pour la suite des travaux qui a vu la réélection de Kwakwo Adote Maoussé à l'unanimité avec 14 voix sur 14 votants. Il sera donc assisté de 9 membres. Ce dernier, qui a pris les rênes de la Fetobox en juin 2022, a exprimé sa gratitude et a évoqué les défis futurs, notamment la formation des entraîneurs et le développement des jeunes pour viser les Jeux Olympiques Los Angeles 2028. Écoutons-le.
C'est un sentiment de joie, de reconnaissance et de gratitude des délégués. Et je pense qu'ils ont voulu une continuité. Avec moi, ils ont décidé. C'est un défi. Le défi est grand. Je pense que nous pourrions y arriver. Pour le nouveau bureau, c'est ça, madame la ministre a dit. Je lui dis grand merci déjà. C'est une demande que j'ai faite au représentant ici, qui m'a répondu vers la fin de l'Assemblée générale, parce que la doléance que je suis en train de faire serait réalisée dans les plus brefs délais. Et je lui dis toute notre gratitude et reconnaissance pour ce qu'elle pense de la bosse togolaise. Je pense avec elle et avec encore plus d'efforts de notre part dans la discipline et le respect total, je pense que nous pouvons y arriver. Dans l'immédiat, nous pensons aux formations des entraîneurs. Parce que nos entraîneurs n'ont pas vraiment de qualité et nous pensons les renforcer et former d'autres. C'est notre première idée. Deuxième idée, c'est de rassembler. Nous voulons aller encore plus à la base. Il y aura un regroupement des jeunes de moins de 17 ans très bientôt. C'est l'âge qui nous a fait reculer un peu cette organisation. Nous le ferons pour que nous commencions à travailler avec les enfants à bas âge. Si un enfant aujourd'hui a 15 ans, si nous l'accompagnons à 19, 20 ans, 4 ans, pensons qu'il serait capable de nous faire quelque chose pour la qualification des Jeux olympiques prochains. Oui, nous avons des difficultés à trouver les jeunes filles, nous avons quelques-unes, mais nous continuerons à leur faire des clins d'œil. C'est pourquoi, à chaque moment, nous avons un gala, un tournoi. Celles que nous avons déjà, nous les font participer pour attirer les autres.
Pour Pierre Léonard Rinvi, président de la Fédération béninoise de boxe qui était présent, l'engagement des membres de la FETOBOX est à saluer.
Je dois dire ma fierté par rapport aux acteurs de la boxe togolaise. Lorsque je jette encore un regard sur les différents rapports présentés, j'ai nommé rapport moral, rapport d'activité, rapport financier, et l'attitude que les uns et les autres ont eue parmi les acteurs en reconduisant le président et en nommant ou en élisant, je peux dire plus précisément, cette nouvelle équipe prouve que l'on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc ils sont conscients de la situation et ils en demandent un peu plus, n'est-ce pas, aux efforts que nous avons constatés dans les différents rapports. Je leur tire coup de chapeau et je bénis l'Éternel d'avoir permis à ces acteurs-là de trouver en face d'eux ces instruments, n'est-ce pas, que sont le président, le vice-président et consorts, qui ont pris l'engagement à leur tour de servir beaucoup plus, n'est-ce pas, la discipline. Je suis tout simplement fier. La boxe, excusez-moi, est une discipline délaissée. Délaissée par, je peux dire, tous les pays francophones, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que tout ce que j'ai entendu ici comme déboire, comme insuffisance, comme absence, n'est-ce pas, d'aide, ça se trouve aussi au Bénin, ça se trouve au Gabon, ça se trouve en Centrafrique. C'est beaucoup plus les pays anglophones qui ont pris cette discipline-là au sérieux. Et nous devons apprendre à les imiter. Nous devons apprendre à faire de manière à ce que cette boxe-là, qui était au firmament, car du Bénin, où effectivement c'est cette même discipline qui a révélé le Bénin à travers des champions d'Afrique, 7 champions d'Afrique et 5 champions du monde. Vous voyez ce que les autres disciplines, le football en tête, ne nous a jamais amené. J'ai constaté que c'est la même chose au Togo. Ça veut dire quoi? Que je continue de dire que la balle est d'abord dans notre camp. C'est nous, dirigeants, qui devons faire de manière à ce que les bagages soient amenés au niveau du genou et inviter, je peux dire, l'autorité à nous aider à charger, n'est-ce pas, ces bagages-là. Le pas est fait, et je crois, à travers les interventions du représentant, du ministre et autres conseillers du maire, n'est-ce pas, d'Andécho, si cela ne reste pas seulement au niveau de la parole, s'il peut passer à l'acte, alors la boxe va retrouver ses lettres de noblesse.
Pour clôturer cette séance, Ngeni Tchagbele a salué la réélection du bureau sortant, mettant donc en avant leur succès et l'unanimité des acteurs de la fête au boxe et a réaffirmé l'engagement du ministère des Sports et des Loisirs à soutenir le sport togolais financièrement et techniquement.
Par rapport à cette assemblée générale élective que nous avions eu l'occasion de lancer et de clôturer cette journée, c'est une fierté parce que, à mon humble avis, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de contestation. Cette élection a démontré encore une fois au niveau de la Fédération togolaise de boxe la cohésion qui existe et l'entente qui est entre les membres. Les discords ne sont pas fait sentir lors de l'activité élective. Le congrès s'est bien passé et nous tenons vraiment à saluer et à souhaiter aux autres fédérations qui sont dans la même dynamique, dans la perspective d'organiser leurs élections, que cela soit ainsi. Le Sport et des Loisirs, par le biais de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, est en train de faire un gros effort pour améliorer et assainir le monde sportif togolais. C'est dans ce cadre que beaucoup de tests et des lois se font. Vous avez écouté en substance dans son discours que j'ai transmis lors de la cérémonie de clôture, appelant à ce que tous les acteurs s'approprient des textes en vigueur. C'est pour la bonne marche. Donc c'est ce qui permettra d'assainir le secteur du sport au Togo et de donner beaucoup plus d'avantages au sport togolais, sa lettre de noblesse. L'accompagnement au niveau financier et l'accompagnement également au niveau technique de toutes les fédérations vont bénéficier. Donc c'est quand le secteur est sain que tout cet accompagnement peut se réaliser. Donc, nous sommes fiers.
Voici donc la liste du nouveau bureau exécutif. À la tête donc, le président Gbagbo Adote Maoussé, le premier vice-président Sogbavi Edo, deuxième vice-président Assimi Clair, Koko Doko Adeo, troisième vice-président Koukoubakou et secrétaire général Adote Sylvain, trésorier général adjoint Dibrilia Soumeman, conseiller Wede Kosiwa Djakosi et Boukari Lukumanu. Il faut dire que cette assemblée générale s'est conclue par des exhortations et des félicitations. L'État togolais, à travers le ministère des Sports et des Loisirs, vient de souscrire à une police d'assurance de responsabilité civile et un contrat d'assurance individuelle accident. Au profit de toutes les fédérations et associations de sport et de loisirs agréés, des clubs affiliés, de même que des athlètes licenciés prenant part à leur activité, cette initiative novatrice fait suite aux résultats de tout premier annuaire statistique dont s'est doté le ministère des Sports et des Loisirs en 2023. Cet outil déterminant a permis au gouvernement d'avoir une idée assez expressive sur le nombre de clubs et des citoyens prenant régulièrement part aux activités sportives et de loisirs. Cette initiative s'inscrit également dans la dynamique de la mise en œuvre des dispositions de la loi numéro 2021-008 du 7 mai 2021 fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo qui dispose en son article 45, je cite, « Les associations, les unions et les fédérations sportives pour l'exercice de leurs activités souscrivent à un contrat d'assurance de responsabilité civile et un contrat d'assurance individuelle duel accident. » Fin de citation. Au moment donc où le chef de l'État, Forest Osim Nanyasimbe, prône l'inclusion avec le déploiement de l'assurance maladie universelle, cette initiative du ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lidi Besikama, constitue une réponse à l'attente des acteurs des sports et des loisirs. Conclue pour une durée d'un an renouvelable, cette police d'assurance vient donc s'ajouter à la batterie des mesures novatrices initiées par le ministre des Sports et des Loisirs depuis 2020 pour améliorer la gouvernance ainsi que les conditions de vie et de travail dans les domaines du sport et des loisirs. Une bonne nouvelle en plein processus de professionnalisation des sports au Togo. Nous restons toujours dans les multisports pour parler de l'atelier de validation du recueil des jeux traditionnels du Togo. Le jeudi dernier, un atelier de validation du recueil des jeux traditionnels du Togo s'est tenu à la salle de réunion de Kigé organisée par le ministère des Sports et des Loisirs. Cet atelier vise à revitaliser les jeux traditionnels disparus. En effet, cette rencontre d'une journée a réuni les membres du cabinet du ministère, les présidents des fédérations nationales de loisirs ainsi que les directeurs centraux régionaux et chef de service du ministère. Elle a débuté par les mots de bienvenue du directeur des Jeux et des Loisirs, Etienne Kodjo-Klou, qui a rappelé que ce projet de recueil initié en 2013 est le fruit d'un travail collectif fondé sur une approche scientifique élaborée à partir de la collecte, de l'analyse et du traitement des données. Le secrétaire général représentant du ministère des Sports et des Loisirs, Kodjo Dogbeda-Gano, a ensuite pris la parole pour ouvrir officiellement l'atelier. Il a insisté sur les valeurs des jeux traditionnels telles que la tolérance, le caractère combatif, l'endurance et le vivre ensemble. Écoutons-le.
Le jeu fait partie de tout. Il fait partie d'une culture. Il se réfère à une histoire, à un peuple. Il comporte un objectif, une structure, une philosophie et une stratégie. Le jeu a des caractéristiques et des règles. Il intègre un rituel, possède un rythme et une dimension. Il a une moralité et est lié à un environnement spécifique. Le jeu a aussi des dimensions éducatives et peut être étudié d'un point de vue scientifique ou artistique. Ainsi, les jeux traditionnels sont des créations d'une culture et le fruit d'une histoire particulière. Souvent, issus d'un territoire local ou régional, les jeux sont l'expression d'une façon de vivre et d'agir, d'une façon originale de communiquer avec les autres. Liés à de vieilles croyances et habitudes, les jeux traditionnels font partie intégrante des activités culturelles les plus significatives d'une société dont ils sont le témoignage. Ils sont d'une part de l'héritage d'une culture que chaque enfant peut faire revivre une fois plongé dans l'univers des jeux. Ensemble, avec les autres activités de tradition culturelle, les jeux endogènes révèlent les caractéristiques les plus profondes de la culture à laquelle ils appartiennent. Alors, à travers les règles, on peut découvrir les valeurs communes de vie telles que la tolérance et le caractère combatif, l'endurance, le vivre ensemble, les liens avec la nature, la place donnée à l'esprit de coopération et de compétition en raison de leur méconnaissance par la jeune génération et de l'invention des jeux importés. Cette situation nous interpelle tous et c'est pourquoi mon département s'est inscrit dans une dynamique de sauvegarde et de promotion des jeux traditionnels des peuples au Togo. Ça permettra de raviver la culture de toute une nation en matière d'activité ludique et de transmettre de génération en génération ses bonnes habitudes.
À l'issue de la cérémonie inaugurale, Etienne Kodjo-Klou, directeur des Jeux et des Loisirs, a partagé son ressenti.
Et en réalité, nous avons fait un constat. C'est qu'aujourd'hui, les jeux traditionnels n'existent plus. Avec l'apparition des jeux modernes, les smartphones, les games, on a constaté que les enfants ne sont plus ensemble pour jouer comme c'était pour notre cas dans le passé. Alors, ce constat était fait. Nous avons approché les autorités pour pouvoir voir quelles démarches adopter afin d'arriver à constituer, à reprendre nos jeux traditionnels qui sont en voie de disparition. Aujourd'hui, ce recueil va servir d'un fondement pour la culture togolaise. Ce recueil aura en son intérieur des jeux que les enfants n'ont jamais connus, ils n'ont jamais pratiqués. Donc ce recueil-là va permettre à ce que petit à petit nous fassions une pédagogie de formation des enfants à ces jeux anciens qui sont en voie de disparition et leur permettre d'apprendre ce que les parents faisaient et ainsi amener à une vie de convivialité. Parce que chaque fois quand vous rentrez dans les maisons, vous allez constater que tout le monde est avec son appareil et c'est de l'individualisme. Maintenant, il faut qu'on amène ces jeux-là dans la famille pour que les parents avec leurs enfants commencent par jouer à ces jeux-là et les enfants même entre eux. Par exemple, le jeu de cache-cache, de Belibé, c'est un jeu qu'on pratiquait dans la France. Mais aujourd'hui, ce jeu-là, ça n'existe plus. Alors que ce jeu permet aux cousins, aux cousines, aux frères et aux sœurs mieux se connaître et mieux vivre ensemble. Donc l'objectif de ce document, c'est de faire revivre nos jeux qui n'existent plus pratiquement. Voilà. Le guide parfait. Et le travail qui a été fait en 2013. Parce que le travail qui était fait en 2013 était un travail qui est fait au niveau des préfectures. Cette fois-ci, nous sommes allés dans les cantons pour travailler avec les chefs, avec les CDQ. Et ça a permis d'avoir plus d'informations sur certains jeux qu'on avait recueillis il y a, disons, 11 ans ou bien 12 ans. Il y a Ampé, il y a Bebelibe, il y a Konto, il y a Adito, qui ont joué un peu partout. Il y a Zetitré, qui est en voie de disparition. Quand les enfants vont commencer par jouer à ces jeux-là, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. D'abord, au niveau de la famille, d'abord, beaucoup, il y a la vie là qui va reprendre. Il n'y aura plus d'individualisme. Il y aura cette convivialité de voir papa et maman poser avec les enfants autour d'un jeu. Et maintenant, au niveau de la société, nous pouvons valoriser ces jeux-là, en sorte que ces jeux deviennent des jeux sportifs. Quand je prends par exemple VTT3, c'est un jeu que nous sommes en train de travailler pour que ça soit d'abord connu sur le plan national et sur le plan international, faire une règle pour qu'on puisse faire connaître ce jeu-là sur le plan international.
Il faut donc retenir que parmi les jeux traditionnels du Togo figurent Ampé, Obé, Akonto, Adito et VTT3. La Fédération togolaise des sports paralympiques, la FETOSPA, a organisé le samedi dernier une conférence de presse au siège de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. L'événement a été l'occasion de faire le point sur la participation du Togo aux derniers Jeux paralympiques qui se sont déroulés à Paris du 28 août au 8 septembre dernier. Trois membres de la délégation, notamment Bapeba, Marc Analen, le président de la FETOSPA, Kunte Kayasa, le directeur technique national de la FETOSPA et le para-athlète Yaovi Séverin Kinsa se sont donc prêtés à l'exercice devant les membres de la FETOSPA ainsi que les médias. Quel est donc le bilan de cette participation? Cette rencontre a été introduite par Bapeba Marc Analen, le président de la FETOSPA, qui a remercié tout d'abord l'assistance. Il a ensuite été suivi par le DTN Kunte Kayasa qui a dressé le bilan technique de cette participation.
Nous avons la chance de conduire l'athlète à ces Jeux paralympiques de Paris 2024 et aux côtés de grands athlètes du monde entier, surtout les Européens. Et je pense que nous sommes partis d'une performance de 1,79 à 1,88. C'est une satisfaction totale. On a été vraiment satisfaits parce que notre objectif, c'est de d'abord arriver à améliorer la performance, ensuite aller au podium si possible. Même si nous ne sommes pas allés au podium, nous ne sommes pas quand même déçus. Le résultat a été quand même payant. Nulle part, rien n'est parfait. Et les choses qu'il faut améliorer. Et plus de compétition sur le plan international. Parce que c'est à force de se mesurer qu'on puisse faire mieux. Et donc si d'aventure, on nous donne la chance de prendre part à beaucoup de compétitions internationales, nous allons quand même essayer de nous mesurer davantage, créer plus d'engouement et avoir plus d'opportunités à faire mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. On a appris. Franchement, c'est un rendez-vous de donner de recevoir. J'ai côtoyé les Indiens, les Canadiens, les Américains, les Chinois surtout. Je pense que vraiment on a changé. Même au stade de France, à la compétition, il y avait des Indiens qui étaient à côté de nous. Même au niveau du logement du village paralympique, ils étaient là. Et les Égyptiens, ils nous ont vraiment beaucoup encouragés. On a changé. Et on a quand même eu des échanges de contacts. Je pense qu'avec certaines formations, certains même nous invitent déjà à ces formations à leur niveau pour qu'on puisse améliorer nos performances et faire mieux que nous en fait aujourd'hui. Nous avons 4 ans devant nous, mais c'est déjà proche. Il faudrait commencer déjà sur le plan national, organiser beaucoup de séances entre beaucoup de compétitions interclubs, beaucoup de compétitions sur le plan national et aller sur le plan international. Nous avons les Jeux de Dakar, des jeunes qui sont là, les championnats d'Afrique. Il faudrait que nous puissions changer le système d'entraînement, avoir plus d'athlètes qui vont adhérer aux différents clubs et remonter aussi le niveau des techniciens. Parce qu'une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Et sur le plan technique, nous ne sommes pas nombreux. Il faudrait que vraiment il y ait un corps d'entraîneurs formé d'un bon niveau pour remonter la pente au niveau des athlètes.
Yaovi Séverin Kinsa, qui a représenté le Togo lors de ces Jeux, a lui aussi partagé ses impressions sur l'ensemble de sa participation et surtout sur l'ensemble de sa performance.
La première impression, c'est une impression de gratitude d'avoir eu cette chance de participer à cet événement planétaire. Et je peux dire que c'est une joie pour moi de participer à cette compétition qui est le Jeu paralympique de Paris 2024. D'abord, l'avant, c'est notre arrivée à Paris où on s'est acclimaté environ 2 jours. Le jour suivant, moi, je n'ai fait que dormir parce que j'étais fatigué du voyage. Mais bon, on remercie Dieu à les journées qui ont suivi plus tôt. On s'est entraîné dans les conditions de compétition et ça nous a permis le jour J de donner la performance que vous avez bien sûr vue. Et après cette compétition, bon, bien sûr qu'on a eu mal les 2 jours suivants, mais il y avait aussi la polyclinique qui était là pour nous soigner. Et après ça, on a essayé de profiter des relations qu'on pouvait tisser là à Paris avant de rentrer. Personnellement, j'en voulais plus. Je voulais être dans les 1,90. Mais bon, Dieu merci. On remercie Dieu pour tout ce qu'il a donné. Et ça nous apprend que ça ne suffit pas, le travail qu'on fait déjà. Et on va essayer de faire mieux. Dès qu'on a fini le dimanche, le lundi, on pensait déjà à Los Angeles. Et on pensait déjà à comment s'y préparer pour que là, ça ne soit plus un truc de « bon, c'était la première fois, donc tu as vu, mais c'était la deuxième fois et tu as eu une médaille ». C'est à ça qu'on pense.
Enfin, le président de l'instance Gbapeba, Marc Annalen, a remercié le gouvernement à travers le ministère des Sports et des Loisirs qui a accompagné la délégation et il a dressé son bilan qui est positif. Il s'est projeté aussi sur le futur et a fait un appel à la population pour que chacun puisse accompagner le parasport qui est un vecteur d'inclusion, un vecteur d'épanouissement pour les personnes handicapées.
À Paris, la compétition de notre athlète, puisque c'est le seul para-athlète que nous avons présenté, disons que oui, c'était une bonne chose parce que il a amélioré significativement sa performance de 1,79 mètres. Il est passé à 1,88 mètres. Donc c'est quelque chose de très louable. Il n'a pas démérité et puis il n'a pas fait piètre figure. Et ça nous réconforte beaucoup et ça nous donne plus de force à continuer le travail, plus d'engagement à continuer le travail. Alors, ce que je veux dire, c'est que Paris a été pour nous une grande expérience d'apprentissage. Nous avons appris beaucoup de choses. En marge des Jeux, nous avons participé aux réunions avec les partenaires. Nous avons pu prendre des contacts avec qui nous allons continuer de travailler pour développer le parasport dans notre pays. Nous avons compris aussi que le parasport dans notre pays est un peu en retard par rapport à d'autres pays. Alors nous avons compris qu'il y a du travail à faire et pour que nous puissions colmater les brèches et être du moins à un niveau acceptable, à un niveau honorable, pour que aux prochaines échéances qui arrivent, il y a Los Angeles dans 4 ans, mais avant Los Angeles, il y a aussi d'autres jeux intermédiaires pour que nous puissions présenter davantage de para-athlètes. Il ne faut pas que ce soit seulement un para-athlète. Il faut que nous soyons capables de qualifier davantage de para-athlètes. Et pour cela, nous aurons besoin de l'appui de tout un chacun. À commencer par vous, les journalistes, vous le faites déjà. Mais je vous prie de le faire davantage, de communiquer davantage sur le parasport pour faire comprendre à la société que le parasport est un vecteur d'inclusion, est un vecteur d'épanouissement pour les personnes handicapées. Et donc, comme la politique du pays d'ailleurs, que je salue ici, est une politique inclusive, nous devons travailler à ce que les personnes handicapées soient incluses à travers ou par le parasport. Donc c'est un engagement et je suis sûr que les uns et les autres, nous allons mettre la main à la pâte pour accomplir ce rêve-là, afin qu'à Los Angeles, en 4 ans, nous ayons plus d'athlètes et d'ailleurs que nous ayons la médaille. Parce que quand ça qui est allé, il a amélioré sa performance, mais la prochaine étape, c'est de pouvoir avoir la médaille. Et moi, je ne dis pas que c'est un échec, mais comme je le dis toujours, c'est un pas vers le succès. Et donc, on va y travailler.
La Fédération togolaise d'aviron a tenu son assemblée générale élective ce samedi à Baguida. Lors de cette dernière, un nouveau bureau exécutif a été mis en place pour un mandat de 4 ans avec à sa tête Anani Mensah. Cette session a été ouverte en présence du représentant du ministère des Sports et des Loisirs, Nyeni Tchagbele, ainsi que du représentant du Comité national olympique du Togo. Le bureau sortant, dirigé par Komi Apeleti Akwete, a présenté et fait approuver les rapports moraux d'activité et financiers des 2 dernières années. Délégués des clubs venus de tout le Togo ont également validé le procès-verbal de la réunion. Enfin, un présidium de 3 membres dirigé par Aï Prosper Amavi a supervisé le déroulement des élections. Anani Mensah, le seul candidat pour le poste de président, a été élu à l'unanimité avec 16 voix sur 16. Nyeni Tchagbele a encouragé le nouveau bureau à faire preuve d'humilité et de responsabilité tout en réaffirmant l'engagement du ministère à soutenir la FETAB durant ce mandat.
Une fédération que nous avions suivie depuis de ce processus et ma foi ce processus vient de terminer avec le couronnement de l'élection du nouveau bureau et sans trop de soucis comme dans la plupart de certaines fédérations auxquelles nous sommes confrontés à des difficultés. Et je vous avoue qu'avec la Fédération togolaise d'aviron, nous n'avons pas eu de soucis. Et c'est le souhait de Madame le ministre des Sports et des Loisirs qui a bien voulu nous choisir pour accompagner les fédérations afin d'éviter un certain nombre de conflits. Effectivement, ce matin, les choses sont bien passées. J'ai suivi de bout en bout comment les activités sont passées. Je suis ravi d'aller rendre compte de l'effectivité de cette Assemblée générale qui s'est déroulée sans problème. Et j'espère que le nouveau bureau va continuer dans ce sens. Ils vont s'entendre pour le bien de la fédération. Nous osons croire et nous avions espoir que la Fédération togolaise d'aviron a beaucoup d'avenir.
À l'issue de ce congrès électif, le président élu Anani Mensah a exprimé son enthousiasme et a fixé ses priorités. On l'écoute.
Je suis fier, mais pour le moment, ce n'est pas encore une joie totale parce que, comme le représentant de Madame le ministre vient de le dire, c'est maintenant que le travail commence. Donc nous devons prouver que nous sommes vraiment prêts à travailler, à œuvrer pour cette fédération. Et vous savez, c'est un travail de bénévolat, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de salaire, c'est un sacrifice. Donc je suis fier bien sûr, mais pas la joie totale. Quand nous serons encore ici l'année prochaine pour notre assemblée générale ordinaire et quand nous allons présenter le bilan, vu ce que nous allons faire, c'est là où je serai fier totalement. Mais pour le moment, c'est un défi lancé. On verra comment relancer ce défi. Nos premiers chantiers, comme vous le savez, c'est les matériels. Pour le moment, nous avons besoin énormément de matériel. Donc, je suis arrivé maintenant en tant que président de la fédération. Comment faire maintenant pour avoir des matériels pour notre fédération? Les athlètes sont là massivement, mais ils n'ont pas de matériel. Il y a des clubs sans matériel. Donc, comment faire pour avoir des matériels premièrement? Maintenant, à part les matériels, nous allons voir comment gérer notre relation avec le ministère des Sports et des Loisirs, le CNI Togo, et développer notre aviron au Togo. Bon, pour développer notre discipline, l'aviron au Togo.
Voici donc présenté le nouveau bureau exécutif. Président Anani Mensah, secrétaire général Okosa Kodjo, secrétaire général adjoint Kanyisupe Akpene Sabine, trésorier général Nyamavo Kodjo, trésorier général adjoint Chao Gameli, conseiller donc Akwete Komi Apelete et Ntsuglo Solenu. Nous passons maintenant au basketball pour parler de la 7e édition du tournoi de basket U14 mixte dénommé Feu Lawson Séraphin. Alors cet événement a connu son apothéose le samedi dernier et avait pour objectif d'encourager l'éducation des jeunes et leur implication dans le basketball. 15 clubs y ont pris part. Les phases de poule et les éliminatoires ont été marquées par la performance des jeunes participants. Contrairement au tournoi habituel, aucune phase finale n'a été jouée pour déterminer deux vainqueurs. Ainsi donc, il faut savoir qu'en parallèle, 4 bourses d'études ont été attribuées aux jeunes, notamment Agboton Lorraine du Racine Club, Maïmounaba de Obissi, Gracie Apedo et Alex Akapo, tous deux du centre OBCA. Lawson Jean-Pierre, coach d'Africa Smile, s'est exprimé au sortir donc de l'événement.
On est vraiment très content de cela parce que tous les académies sont présents avec les jeunes qui ont vraiment donné un jeu de fair play entre eux. Ce qui est très intéressant parce que ça permet déjà à nos jeunes de beaucoup s'appliquer, de donner du meilleur d'eux. C'est la première fois pour certains de venir à Omnisport jouer, donc c'est vraiment une heureuse pour eux. Donc cet événement peut toujours continuer déjà la 7e édition et plus s'améliorer encore plus. Déjà détecter des jeunes talents, des nouveaux, comment les entraîner, comment les suivre jusqu'à l'évolution, c'est vraiment un très bon atout pour nous et pour les académies, pour ceux qui sont en train d'accompagner les différents enfants des différents lieux. Donc voilà, une fois encore, merci à tout un chacun de vous pour l'organisation. Et voilà, beaucoup de bisous, beaucoup de chance, beaucoup de bonnes choses, de très bonnes rentrées pour cette année à tous nos enfants. C'est vraiment apprécié parce que dans nos quartiers, dans nos villages, même à Lomé ici présentement, nous tous nous savons comment les choses fonctionnent. C'est très compliqué pour les parents de pouvoir payer des fournitures pour la rentrée scolaire, pour les parents. Ça, c'est déjà un très grand soulagement. Comme ça, je suis passé par là pour dire que vraiment, tous ces parents seront réjouis à la maison, ces enfants seront réjouis aussi aujourd'hui. Donc l'éducation, nous ne pouvons que souhaiter ou bien demander aux enfants de donner le meilleur d'eux-mêmes pour ces bourses et pour ces différents fournitures, pour que ceux qui sont en train de nous transmettre, de nous donner ça aujourd'hui, puissent être très contents de cela. Et à la fin, comme l'a dit un des responsables aujourd'hui, qu'à l'année prochaine, pour qu'on puisse dire qu'il y a eu un enfant qui a eu 15 de moyenne, 18 de moyenne, 16 de moyenne, 20 de moyenne, pourquoi pas cela.
Pour conclure, Edem Koudité, le président du club des anciens basketteurs, retrouva et remercier donc la FNB Togo, les partenaires et les membres du comité d'organisation pour leur soutien et leur engagement, tout en donnant ses impressions de cette édition.
Je me sens d'abord reconnaissant, je vais dire au Dieu Tout-Puissant, mais aussi reconnaissant à toutes les parties prenantes qui ont vraiment mis la main à la pâte pour la réussite de cet événement. Le regard de ces enfants, la joie, la gaieté, le plaisir, l'abusement, le partage du manger qui a été le quotidien de toutes ces journées a fait que nous sommes contents de cette réussite. C'est une réussite pour nous parce que nous avons pu mobiliser assez de fournitures scolaires pour les enfants. Nous avons pu voir ces enfants partager cette passion, jouer, s'amuser et faire des gestes qu'on ne pouvait pas imaginer à leur âge. Donc nous sommes plutôt contents et très heureux de les voir. Et nous profitons pour dire encore merci à la Fédération, à la Ligue et à tous ces clubs, parents de ces enfants et à toute l'équipe de Retrouvailles qui a vraiment mis la main à la pâte, mobiliser les fonds pour tenir ce challenge. Ça n'a pas été simple, mais nous sommes contents du résultat. Et avec ces enfants qui ont même du mal encore à quitter le terrain. Le but visé est d'abord deux axes. Le premier axe, c'est contribuer à l'éducation des enfants. C'est pour cela qu'autour de ce tournoi, nous mettons comme récompense tout ce qui est fourniture scolaire. Ensuite, nous voudrons que ces enfants puissent prendre en compte l'éducation au sérieux et jouer. Donc jouer, c'est d'abord aussi la santé et qu'on puisse avoir des idées de projets du développement du basket au Togo à partir de cet âge de 14. La huitième aura encore de l'innovation. Cette septième, nous avons commencé par faire des conférences de presse pour pouvoir rassurer nos partenaires qui puissent nous accompagner. La huitième, nous allons ajouter cette fois-ci pour des récompenses côté scolaire en tenant compte des moyens des enfants qui viendront jouer au basket. Donc le but, c'est de susciter ces enfants basketteurs, parce que les basketteurs, on l'a dit, sont des joueurs les plus intelligents. Et l'idée, c'est de susciter ce développement d'intelligence-là au sein de ces enfants pour que l'année prochaine, nous puissions vraiment les distinguer à travers les résultats concrets à l'école.
D'une discipline à une autre, nous intéressons maintenant au rugby à 7. Les entraîneurs des clubs de rugby à 7 ainsi que les joueurs des équipes nationales masculines et féminines de la discipline ont bénéficié d'un stage de formation et de renforcement du 9 au 13 septembre dernier à Lomé. Organisé par la Fédération togolaise de rugby, la formation conduite par l'expert sud-africain Gabriel Bronson et le sélectionneur togolais Mahawiya Ouro Komoni a bénéficié de l'appui financier de la solidarité olympique. Elle a permis donc d'outiller d'une part les entraîneurs sur les nouvelles modifications, les apports sur les plans techniques et physiques afin de répondre aux nouveaux défis du haut niveau en matière de rugby à 7 et d'autre part de mettre les équipes nationales de la discipline dans ce nouveau moule à travers un conditionnement pratique. La planification, les techniques d'entraînement, la connaissance du jeu et des techniques, la gestion des risques et l'éthique sont les modules qui ont meublé ce stage. Écoutons donc Ouro Komoni.
Il a été essentiellement question de mettre les entraîneurs dans le contexte de la 7 au haut niveau. Parce que c'est un stage d'entraîneur niveau 2, rugby à 7. Et disons que le haut niveau est très exigeant et les entraîneurs doivent se rendre compte de ça. Donc le formateur a mis un accent sur les exigences du haut niveau, au niveau de la 7, sur le plan physique, sur le plan tactique et aussi sur le plan de l'entraînement. Comment est-ce qu'un entraîneur niveau 2 doit penser son équipe? Sur quoi il doit s'appuyer, quel type de jeu il a et quel format de jeu il doit choisir, avec pour objectif pourquoi il fait ce choix. Et dans la pratique, mettre les joueurs en activité au maximum, parce qu'à cet haut niveau, on parle des joueurs de l'équipe nationale. Et c'est très exigeant quand on regarde les pays comme l'Ouganda, qui est une grosse nation émergente aujourd'hui à 7 en Afrique. Et quand on regarde le Kenya, même à côté quand on regarde le Burkina, c'est que les équipes ont travaillé un niveau, ils ont travaillé pour hausser le niveau de jeu. Donc le niveau athlétique des joueurs, le niveau d'analyse, de prise de décision, la capacité des joueurs à pouvoir multiplier les efforts pendant un match à 7, étant donné que le match se joue toujours sur les formats de tournoi, donc cela demande une grosse capacité athlétique et physique et aussi technique des joueurs. Donc il a été essentiellement question de ça, d'amener les entraîneurs à se rendre compte des exigences et à se dire qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi est-ce qu'il faut le faire. Et impliquer maintenant les joueurs dans le projet pour que voilà, le jeu puisse évoluer.
De son côté, Gabriel Bronson, formateur principal, a loué le niveau et la volonté des acteurs togolais à tout mettre en œuvre pour élever le niveau de la discipline ovale. Il a par ailleurs relevé la nécessité d'intensifier ses stages et de solliciter de diverses expertises afin que dans le partage et la comparaison, le Togo puisse tailler sa place dans le concert des grandes nations rugbystiques. Je vous propose de l'écouter s'exprimer en anglais.
I think, like I said in the meeting, it's a growing nation and we have some nice coaches that can take the game forward. I actually enjoyed my time here. It's very important for coaches to embrace sevens because it's a quicker opportunity for players to reach the international stage before you're looking at the 15s. So if the clubs can embrace the game, the sevens game, and take it to the regional tournaments and get out of the regional tournaments into the Africa Cup, there will be much more opportunities like we had in Mauritius and in Uganda recently with Rugby Africa. We have one or two good coaches here at the moment, but we need the other coaches also to expand their knowledge and to travel a bit more and engage other coaches international level, to learn from other coaches and inviting other coaches to come here and expand in that knowledge. Currently, there's not enough rugby being played in Togo, but you need more tournaments and you need more international exposure. They need to invite more coaches here to share more ideas. What they can also do, if they can't invite, is to engage more coaches abroad that is at the international stage, to ask them how they're doing things, more tactical things, more technical things. Currently, I think the coaches... They're not allowing the players to experiment. They're talking too much. So they must allow the players to play a bit more in training and stop. Don't stop the training all the time. I think that is one thing that I've tried to rectify while I was here.
À l'instant, l'expert sud-africain Gabriel Bronson. Achiraf Akpabli, entraîneur du club Elite, donne ses impressions.
C'était une très belle expérience pour nous en tant qu'entraîneur de participer à cette formation d'entraînement de niveau 2, World Rugby. Déjà, c'est très bien d'avoir une accréditation World Rugby. Aujourd'hui, par rapport à cette formation, durant cette semaine, nous avons acquis beaucoup de choses, beaucoup de modifications sur le jeu, beaucoup d'apports sur le jeu technique, tactique, et puis sur nos conditions de travail et tout. Aujourd'hui, dès que nous retournerons dans nos clubs divers et tout, nous aurons la capacité de vraiment fournir un bien de plus à nos joueurs, et ainsi que apporter un peu plus tactique sur le fond du jeu, le plan du jeu et toutes les actions en fait. Donc, durant cette semaine, nous avons acquis toutes ces compétences et que nous avons pour obligation de retransmettre dans nos divers clubs, pouvoir faire remonter un peu la pente du rugby togolais.
Ces entraîneurs sont désormais aptes à passer le cap de l'accréditation du niveau 2 de World Rugby à l'issue de ce stage. Une grande ouverture pour éclairer donc l'horizon du ballon ovale au Togo en matière de ressources humaines. Du 25 septembre au 7 octobre prochain se tiendra en Côte d'Ivoire la première édition de la Coupe du Monde de Maracana dénommée Maramonde. Dans cette optique, la Fédération togolaise de Maracana, FETOMA, a organisé une conférence de presse en fin de semaine dernière pour confirmer sa participation, dévoiler ses ambitions et faire le point des préparatifs de la sélection nationale. Le premier vice-président de la FETOMA, Bertrand Massegbe, se dit rassuré de l'état d'esprit des représentants togolais que le Togo compte remporter le trophée.
Actuellement, l'état d'esprit des joueurs est vraiment haut. Les athlètes sont très conscients de la tâche et je pense qu'on va en Côte d'Ivoire en mission commando. S'il plaît à Dieu, avec les prières de tout et chacun, tous les Togolais, on va revenir avec le trophée.
Président, une première Coupe du Monde. Vous allez en Côte d'Ivoire pour aller prendre le trophée, c'est ce que vous dites. Est-ce que ce n'est pas trop demandé?
Non, ce n'est pas trop demandé. Ici, nous sommes en Maracana, nous ne sommes pas en football. Je pense que la première CAN organisée sur la terre ivoirienne, le Togo a rapporté. Et la première Coupe du Monde en terre ivoirienne, nous pensons vraiment répéter et ramener le trophée.
Ce qui ne serait pas aisé, les autres nations vous attendent. Hein?
Les autres nations nous attendent et je dirais plutôt qu'on n'a pas peur. L'état d'esprit des joueurs ça me rassure. La Côte d'Ivoire aussi serait comme les autres pays au rapport du Togo.
Le Togo, pour cette première édition de Maramonde 2024, est logé dans la poule C et se frottera au Sénégal, au Burkina Faso et à la Guinée-Bissau. Écoutons le directeur technique national de la FET, Thomas Boukari Amadou.
Nous sommes prêts. On a commencé il y a longtemps. On a tout parcouru et on s'est préparé comme il faut. Et c'est une Coupe du Monde, c'est une première. Et on s'est donné les moyens techniques, physiques, etc. pour pouvoir représenter valablement le pays.
Vous êtes dans une poule C avec des équipes plus ou moins aussi fortes que le Togo. Quelle impression vous avez de vos adversaires?
Nos impressions restent les mêmes hein, pour la CAN. On les connaît, surtout le Burkina. Et le Sénégal, ils ne sont pas tellement habitués. Mais ça va jouer. Au Maracana, il suffit de faire un petit effort et puis vous comblez les trous. S'ils ne pourront pas être en face de nous, ils auront peut-être d'autres moyens pour nous obliger à mal jouer. On s'est préparé. On s'est également préparé pour toute la compétition, pas pour les trois premiers matchs.
Il faut retenir que le Togo entrera en lice le 28 septembre face à la Guinée-Bissau.
Sport Hebdo, les informations sportives tous azimuts.
Nous continuons notre bonhomme de chemin. Sport Hebdo pour parler football. À présent, le programme du déroulement du jubilé de fin de carrière d'Emmanuel Chehi Adebayor a été dévoilé le vendredi dernier, donc lors d'une conférence de presse organisée par sa fondation. Il faut le dire que ce dernier sera donc l'attraction de 3 jours d'événements qui auront lieu du 25 au 27 octobre prochain. Plus de détails avec le vice-président Boris Segbonou.
Comme on vient de le présenter, il y aura 3 jours d'activité, 3 jours où les jeunes seront invités à compétir. On a d'abord le vendredi une compétition de football féminin au Togo, hein, dans toutes les régions. On aura organisé des matchs, on va dégager des équipes qualifiés dans les régions qui viendront pour les phases finales à Lomé. Et donc ce vendredi-là va consister au lancement et en même temps la finale du tournoi féminin. Et le samedi, on aura un concert géant dans la soirée, mais bien avant, un marathon jeunesse et entrepreneuriat, samedi matin, où on va faire venir nos jeunes entrepreneurs qui voient que dans la persévérance, qu'on arrive à de grandes choses. Il y aura des prix qu'on va décerner aux uns ou aux autres à l'issue de ce marathon. Et le concert géant, ça va être à 20h au stade de Omnisport. Il y aura plein d'artistes. Hein. On essaie de faire mystère sur les noms pour l'instant. Et le dimanche, il est prévu un match de gala à 15h. Là aussi, il y aura pas mal de joueurs de légende qui vont à Lomé. Et à 20h, le dîner de gala, il y a l'hôtel de Lomé.
C'était donc à l'instant le vice-président de la Fondation Chehi Emmanuel Adebayor, Boris Segbenou. Nous écoutons à présent l'intéressé Chehi Emmanuel Adebayor.
C'est une manière à moi de les remercier, tous les gens qui m'ont tant soutenu. Je sais que j'étais pas exemplaire, mais moi, à la fin de la journée, c'est un jubilé. C'est la dernière fois que Chehi jouera encore au stade de Kéhié. Donc je pense que il y a tous les engouements pour que ce soit une belle fête. L'événement, ça va être difficile, ça ne sera pas aussi facile que ça. Parce qu'organiser quand même un événement où on invite les légendes, les artistes, c'est pas évident. Mais bon, je pense que par rapport à la personne que je suis, comment je me comporte avec les autres, les gens répondront présent. Et je tiens aussi à inviter tout le pays, surtout la jeunesse, parce que bon, je pense que j'ai un lien quand même avec la jeunesse. De venir me soutenir pour une fois ou pour une dernière fois sur le terrain de Kéhié entre le 25 et 27 octobre.
Tu t'amuses un peu.
لو انا معاش هون خيي بكفي المشكل
Le masque que je nourris au village ne peut jamais me faire en ville.
Sportive d'ailleurs.
L'Afrique a vibré au rythme des deux premières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Une semaine pleine qui permet donc aux équipes de se situer désormais par rapport à la suite de la compétition. Dans ce cadre, les Guépards du Bénin sortent avec une défaite et une victoire. Suivons ensemble le résumé de notre correspondant Jules Cho depuis Cotonou.
Après l'heure déculottée de 3-0 face aux Super Eagles du Nigeria, les hommes de Gennett Rohr se sont rattrapés face aux Chevaliers de la Méditerranée sur un score de 2-1. Dès la 9e minute de jeu, les Libyens ont ouvert le score, gardant ainsi leur résistance jusqu'à la fin de la première période. Mais le retour des Béninois sur la pelouse d'Abidjan a été couronné par une victoire. Prenant au sérieux cette deuxième partie, les Béninois ont changé la physionomie du match. Steve Mounier, qui égalise par le plat du pied après que Junior Olaitan n'inscrive le but sauveur sur un pénalty. Avec ce succès, le Bénin se positionne derrière le Nigeria, 4 points. Le Rwanda, avec son deuxième nul face aux Super Eagles, à 2 points et la Libye, 1 point. En octobre, les Guépards du Bénin jouent la double confrontation face aux Guêpes du Rwanda pour le compte des 3e et 4e journées de ces éliminatoires Maroc 2025. De Cotonou, Jules Echo, Arouy Vienfo.
À l'instant, Jules Echo, notre correspondant depuis Cotonou au Bénin. Dernier sujet de Sport Hebdo de ce lundi matin, basketball. Le Mali remporte l'édition 2024 des Afro-Basket garçons et filles des moins de 18 ans, alors que les Maliennes ont dominé leur homologue nigérienne 76-56 en fin d'après-midi du samedi 14 septembre. Les garçons se sont imposés dans la soirée devant les Camerounais 60-51. 6 victoires en autant de rencontres, l'équipe féminine du Mali a réalisé un sans faute à cet Afro-Basket 2024 en Afrique du Sud. Elle se succède à elles-mêmes sur le toit de l'Afrique. Il faut rappeler qu'elles avaient remporté la dernière édition de l'Afro-Basket U18 en 2022 à Madagascar aux dépens des Égyptiennes. Ainsi, le Mali remporte son deuxième titre consécutif et son neuvième en 16 éditions. Les championnes ainsi que leur homologue nigériane participeront à la prochaine Coupe du Monde U19 en Suisse. De leur côté, les moins de 18 ans maliens comme leurs dames ont également remporté l'Afro-Basket. Ils ont remporté tous les matchs qu'ils ont joué après une phase de groupe réussie. 3 matchs, 3 victoires. Les Aiglons ont disposé des D-Tigers du Nigeria en quart de finale, survolé les Lionceaux du Sénégal en demi-finale et dompté ceux du Cameroun en finale. Après donc sa médaille de bronze lors de la dernière édition à Antananarivo, Madagascar, le Mali renoue avec la victoire à cette édition 2024 des moins de 18 ans, lui permettant ainsi de se qualifier au prochain mondial de la catégorie. We'll be right back. finale à Sport Hebdo de ce jour. Merci, chers amis internautes, amis auditeurs et auditrices de la web radio Arouivien Info, pour votre fidélité d'écoute. Bonne suite de journée, portez-vous bien. On se dit à lundi prochain pour de nouvelles informations. Ciao, ciao. Finale à Sport Hebdo de ce jour. Merci, chers amis internautes, amis auditeurs et auditrices de la web radio Arouivien Info, pour votre fidélité d'écoute. Bonne suite de journée, portez-vous bien. On se dit à lundi prochain pour de nouvelles informations. Ciao, ciao.
Web Radio. L'information comme si vous y étiez.